Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans FileSécu, épisode 12 du 5 novembre 2024, intitulé « Mon ordi télétravaille tout seul, une aubaine ».
Vous travaillez à distance pour une grande entreprise et on vous propose de travailler pour vous à distance?
Qui se cache derrière ces propositions? On va le découvrir dans ce nouvel épisode de FileSécu. Alors, je suis Léa, l'animatrice de cette émission qu'on essaie de garder mensuelle. Et voici notre spécialiste de l'informatique, mon cher ami Charlie, toujours en vadrouille.
Salut Léa, heureux de te retrouver pour notre 12e épisode. Et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices fidèles. Pour répondre à ta question, oui, je suis encore en vadrouille ce mois-ci, du côté de Narbonne-Plage, dans le département de l'Aude.
Super, tu auras plus de chances de voir le soleil qu'ici à Paris. Alors de quoi va-t-il être question dans cet épisode? Car le titre est assez énigmatique.
On va parler de propositions que reçoivent certains développeurs en télétravail. On leur propose de travailler pour eux. Les conséquences de ces arnaques peuvent être dramatiques tant pour l'employé que pour l'entreprise. C'est pourquoi il m'a semblé important d'informer nos auditeurs sur ce sujet.
Avant qu'on commence, si ça ne te dérange pas, je voudrais te parler d'un problème qui me met mal à l'aise.
Vas-y, allonge-toi, tu peux tout me dire. Attends, je vais te mettre une musique relaxante pour te détendre. Ah, voilà!
Te fiche pas de moi, c'est pas drôle.
Allez, vas-y, vide ton sac.
Voilà, ça fait quelques semaines que je suis harcelée par quelqu'un qui dit m'avoir observée. Il dit qu'il sait ce que je fais sur mon ordi et peut le révéler à tous mes contacts.
Mais ça, c'est une arnaque. On en reçoit tous les jours de tels messages.
Oui, je sais, d'habitude, je n'y prête pas attention, mais là, ça a l'air sérieux. Je me demande comment cette personne qui me harcèle peut savoir tout ça sur moi.
Tu peux être plus précise. Qu'est-ce qu'elle sait exactement sur toi?
Eh bien, son message commence par « Bonjour Léa », suivi de mon vrai nom de famille, alors que ça ne figure pas dans mon adresse électronique. Ensuite, mon harceleur utilise une image de mon immeuble, ma date de naissance et mon numéro de téléphone perso que je ne communique qu'à mes proches. Et il me réclame 0,1 bitcoin pour ne pas révéler l'affaire à mes contacts. Alors, je m'en fiche qu'il révèle ce que je fais sur mon ordi à mes contacts. Je ne fais rien d'illégal. Non, ce qui me tracasse, c'est qu'ils aient accès à mes données personnelles. Alors voilà, j'aimerais que tu m'expliques comment ils font pour en savoir autant sur moi.
Ok, bon, c'est bien une arnaque. Et de nombreuses personnes reçoivent ce même type de menace, avec demande de rançon. Tu as dû passer à côté d'un email de ton opérateur téléphonique ou de tel ou tel marchand qui t'informait d'une fuite de données personnelles suite au piratage de leur infrastructure informatique.
Ah oui, probablement. J'ai un filtre de messagerie qui envoie tout ça directement à la poubelle.
Alors, je te fais un rappel. Tous les jours, des entreprises se font pirater et aspirer leurs bases de données clients. C'est ce qu'on appelle une fuite de données personnelles. Rien que cette année, ça a eu lieu chez SFR, chez Free, chez Picard ou même chez France Travail. Ça fait donc beaucoup de données personnelles qui ont fuité. Pour être plus clair, ça veut dire qu'à peu près tout le monde a ces données personnelles qui circulent.
Mais comment ça se fait que les entreprises arrivent à se faire voler leur base de données clients? Elles ne prennent pas au sérieux la protection des données de leurs clients.
Oups. Vaste question. Mais pour rester bref et technique, voici une illustration qui va permettre à nos auditeurs de comprendre. Imagine la sécurité informatique d'une entreprise comme une chaîne qui empêche l'entrée aux personnes non autorisées. Cette chaîne de sécurité est constituée de maillons qui représentent tous les éléments réels en lien avec la sécurité de l'entreprise. Eh bien, comme dans une vraie chaîne, la robustesse de cette chaîne de sécurité dépend de son maillon faible.
Quand tu parles d'éléments en lien avec la sécurité, tu veux dire les pare-feux, les antivirus, les logiciels qui scrutent le trafic pour repérer des motifs d'attaquants.
Oui, mais pas seulement. Tu as aussi le personnel qui travaille dans cette entreprise et qui peuvent visiter des sites dangereux ou cliquer sur des liens piégés.
Ah oui, tu veux dire que ces personnes peuvent faire entrer des virus et infecter ensuite tout le réseau de l'entreprise, alors que l'entreprise est super bien protégée.
Exactement, mais ça peut aussi être des mots de passe utilisateurs trop simples, ou encore des failles de sécurité dans des logiciels installés.
Attends, tu veux dire que si j'installe un logiciel sur mon ordi d'entreprise et que ce logiciel comporte une faille de sécurité, je peux mettre en danger toute la sécurité de l'entreprise.
Oui, c'est tout à fait possible si cette faille vient à être exploitée seule ou combinée à une autre faille dans un autre logiciel utilisé dans l'entreprise.
Et si j'ai installé des applis pourries sur mon téléphone et qu'ensuite je le connecte au réseau de l'entreprise, Je mets aussi en péril la sécurité de l'entreprise.
Oui, c'est bien probable. Et tu peux aussi ajouter que si ton entreprise, super hyper sécurisée, fait appel à un sous-traitant mal sécurisé pour réaliser une tâche quelconque avec accès au réseau interne de ton entreprise, eh bien, tu mets aussi en péril la sécurité de ton entreprise. Pareil, si un employé clique sur un lien qui l'amène vers un faux site, et entre son vrai mot de passe.
C'est vertigineux, ça ne s'arrête jamais?
C'est bien tout l'objet de la sécurité informatique. Limiter au maximum la surface d'attaque de l'entreprise, afin d'éviter que des intrus puissent s'infiltrer dans ton entreprise. C'est plus facile de protéger un petit abri au milieu de la forêt qu'un énorme hangar en plein désert.
Ok, je comprends. Donc là, tu as répondu à la partie de ma question sur comment les entreprises parviennent à se faire pirater. Mais pourquoi, en premier lieu, des intrus ou voleurs veulent-ils dérober ces bases de données clients à une entreprise?
Eh bien, tout simplement car des personnes malveillantes sont prêtes à payer pour obtenir des informations d'entreprises cibles. Pense aux espions de pays étrangers, par exemple. Et pas à pas, elles se rapprochent de leur cible. Et le Graal, c'est la réutilisation de mots de passe.
Attends, tu veux dire que les pirates s'en foutent royalement de la base de données Picard? Et qu'un tel achète toutes les semaines les tagliatelles à la sauce merlu à 3,40 €. Mais si ce un tel a utilisé chez Picard le même mot de passe que dans son entreprise super, hyper protégée, alors les pirates peuvent tranquillement entrer dans le système informatique de l'entreprise et consulter les documents internes confidentiels ou secrets, simplement. Grâce au mot de passe glané chez Picard?
Oui, ça peut être une sorte d'utilisation de base de données clients.
Et c'est pour ça que ça se vend sur l'Internet caché, alias le Dark Web.
Exactement, et c'est pour ça que des pirates passent leur temps à tenter de pirater n'importe quel site.
Car il y a de l'argent illégal à se faire. En tant qu'individu, on peut faire quelque chose contre ça?
Bien sûr, en tant que client, tu n'as pas la main sur le niveau de sécurité informatique du magasin du coin qui te propose un compte client. Mais tu peux toujours utiliser un mot de passe différent pour chaque site. Firefox propose par exemple de te générer un mot de passe sécurisé et de le retenir pour toi. C'est la chose à faire. Ne jamais réutiliser les mêmes mots de passe et si possible utiliser des alias de messagerie comme propose Firefox Relay.
On dirait que tu travailles pour Firefox. Tu ne cites que?
Oui, c'est vrai, il existe d'autres solutions mais je ne les connais pas. Et Firefox est gratuit et sécurisé. C'est pour ça que je me permets de les citer, mais ils ne soutiennent pas cette émission.
Ok, je te laisse reprendre sur les actions que les clients peuvent prendre pour éviter que leurs données personnelles se retrouvent dans la nature.
Donc en premier, on utilise des mots de passe complexes et différents pour chaque site sans jamais réutiliser le même s'il est très complexe. Car s'il est compromis sur un site, les pirates vont l'essayer sur d'autres sites. Mon deuxième conseil consiste à mentir sur votre adresse, votre date de naissance ou toute autre donnée personnelle.
Mentir à Picard, c'est facile, mais à France Travail, c'est plus difficile et il me semble que c'est illégal en prime.
Tu as raison. En règle générale, pour tout ce qui est banque, assurance, impôt, employeur, tu ne peux pas facilement mentir sur tes données personnelles. Effectivement, c'est souvent illégal. Donc, dans le cas d'entités relevant de l'État ou d'une assurance ou d'une banque, on ne ment pas. Pour tout le reste, tu peux mentir quand c'est possible.
Parce que ce n'est pas toujours possible?
Ben oui. Si la piscine de patin, les oies réclament ta carte d'identité pour te délivrer ta carte d'abonné à tarif préférentiel, c'est difficile de mentir ensuite sur tes données personnelles.
Un dernier conseil pour nos auditeurs?
Oui, et non des moindres. Bien comprendre que nos données personnelles sont déjà dans la nature et ne pas croire ce qu'on lit dans ses emails ou SMS.
Plus facile à dire qu'à faire.
Oui, mais il faudra s'y habituer.
Oh, tu as parlé du point de vue du client, c'est-à-dire ce qu'on pouvait faire en tant que simple utilisateur. Mais si je suis développeur, car je sais que beaucoup nous écoutent, qu'est-ce que je peux faire pour limiter ces fuites de données?
Eh bien, comme tu ne maîtrises pas complètement la sécurité informatique de l'entreprise sur laquelle ta solution va être utilisée, le mieux en tant que développeur et de ne pas stocker de données confidentielles sur les utilisateurs. Ça évitera de mettre en danger ses utilisateurs si ton produit est victime d'une fuite de données.
Oui, car si certains pirates veulent obtenir des données secrètes de certaines entreprises prestigieuses, d'autres veulent simplement extorquer le plus d'argent à des victimes.
Oui, tu as raison. Un premier type d'utilisation de ces données volées concerne surtout les États ou les entreprises concurrentes qui veulent savoir ce que fait tel autre État ou telle entreprise pour la contrer. Mais un deuxième type d'utilisation concerne effectivement les tentatives d'extorsion.
Oui, Car en croisant toutes ces bases de données clients dérobées à droite à gauche, on peut arriver à faire croire aux victimes qu'on les connaît vraiment. Et j'en sais quelque chose. Heureusement que tu m'as rassurée. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau. En partant du principe que nos données confidentielles sont déjà dans la nature et que les pirates y ont accès, on voit bien qu'il ne faut pas croire aux menaces qu'on nous envoie, même si le pirate semble connaître des informations personnelles sur nous. C'est juste pour nous faire chanter et nous extorquer de l'argent. Et tant qu'on parle de ne pas tomber dans le panneau, je crois que tu as encore une histoire passionnante à ce sujet à nous raconter.
Exactement, Léa. Et ça concerne un étrange email que m'a partagé un ami américain début septembre. Cet email provenait d'un développeur malaisien qui lui proposait un arrangement assez étrange, mais bien ficelé.
D'ailleurs, tu m'as expliqué hors antenne que Steve Gibson l'avait évoqué dans l'épisode 990 de son émission Security Now.
Oui, c'est pour ça que je veux aussi alerter nos auditeurs, car le modus operandi utilisé est extrêmement bien rodé.
Tu peux nous détailler ce modus operandi? Tiens, comment le développeur malaisien a-t-il repéré ton ami développeur?
Tu as raison, commençons par le commencement. Alors mon ami américain, qu'on appellera Maurice pour préserver son identité, a été contacté par une personne de la manière suivante. Je te livre le texte du message.
Salut Maurice, j'espère que tu vas bien et que ça ne te dérange pas que je te contacte. Je m'appelle Lucas et je suis développeur généraliste en Malaisie. J'ai trouvé ton profil sur le site d'emploi usebraintrust.com et je voudrais te proposer une collaboration.
Bon, je passe le blabla et il continue avec...
Je cherche des boulots bien payés avec des entreprises ou clients aux États-Unis. Bien que ce soit possible depuis la Malaisie, en général, ces entreprises cherchent des développeurs sur les mêmes fuseaux horaires qu'eux. Malheureusement, en Malaisie, on est sur du GMT plus 8. Alors que les États-Unis sont entre les fuseaux GMT moins 8 côté Pacifique et GMT moins 5 côté Est. Typiquement, pour des CDI, ils ne prennent pas de développeurs en dehors des États-Unis.
Bon, allez, accouche.
Tu vas voir, ça devient intéressant. Écoute bien ce que Lucas a écrit juste après.
Donc je pense que la meilleure façon pour moi d'obtenir un boulot aux États-Unis, c'est de me faire passer pour un développeur basé aux États-Unis. Ça peut sembler risqué, mais ça ne le sera pas tant qu'on gardera notre collaboration 100% secrète. En outre, je n'ai pas besoin des informations sur ton identité.
Ah oui, il n'y va pas par quatre chemins.
Alors avant de continuer la lecture du message, je précise à nos auditeurs qu'Upwork et Toptal sont des plateformes d'emploi pour indépendants. Et maintenant, écoute comment Lucas propose de s'y prendre.
Tout d'abord, tu ouvres un compte sur Upwork ou Toptal. Puis, tu te connectes depuis ton deuxième ordinateur portable. Moi, je me connecte à distance sur ce deuxième ordi et je cherche des missions. Tu reçois l'argent directement sur ton compte en banque dès que je finis une mission. Tu prends ta commission et m'envoies le reste. Ce serait donc une collaboration non technique et je te propose 15 à 20% pour toi et 80 à 85% pour moi, pour les emplois en CDI, qui rapportent beaucoup plus que les missions pour indépendants. Je candidaterai avec ton compte LinkedIn. Toi, tu passeras les entretiens et obtiendras les postes. Cependant, ça, c'est pour une collaboration avancée, qui implique une solide confiance entre nous.
Et pour les réunions, Lucas donne des précisions?
Oh oui, il a dit.
Je ferai le travail quotidien et toi, tu participeras aux réunions. Je pourrais tout de même participer à ces réunions si les participants conviennent de désactiver leur caméra.
Ce serait quand même super risqué pour ton ami s'il acceptait.
Oui, c'est pourquoi dans le cas d'un CDI, Lucas propose.
Tu reçois ton salaire tous les 15 jours ou tous les mois et tu me reverses ma part après avoir déduit la tienne. Ce serait un mélange de collaboration technique et non technique. Et je propose qu'on fasse 20 à 25% pour toi et 75 à 80% pour moi. Merci de me répondre par courriel si tu veux qu'on se cale un appel pour en discuter plus en détail ou si tu as d'autres idées pour la collaboration.
Tout est possible, bien sûr. Ça peut être vraiment un Malaisien, mais ça me semble un peu gros quand même.
Tu veux dire de mettre aussi clairement en avant la part du gain?
Oui, tu n'as rien à faire. C'est moi qui ferai tout le travail technique et tu empocheras un cinquième d'un plein temps sans lever le petit doigt. Pour moi, c'est lié à ces infiltrations nord-coréennes qu'on a découvertes ces derniers mois. Je n'ai plus en tête exactement comment ça s'est passé, mais peut-être peux-tu nous faire un résumé de ces infiltrations nord-coréennes dans des entreprises occidentales.
Oui, une des dernières histoires dont j'ai eu écho s'est passée en juillet de cette année. Un ingénieur aux traits asiatiques a été embauché par une entreprise de formation en sécurité informatique appelée Noneforbi. Cet ingénieur a passé avec succès tous les entretiens et toutes les vérifications sur son passé. Mais dès lors que l'ingénieur qui devait travailler à distance a reçu son Mac, il a commencé à charger des logiciels malveillants.
Ah oui, chaque minute compte.
Heureusement, le logiciel de sécurité embarqué sur le Mac à détecter ces logiciels malveillants. Donc, le service informatique a pu empêcher à temps que cet ingénieur ne compromette tout le système interne de l'entreprise. Pourtant, l'attaquant ne manquait pas de toupet. Quand le service informatique l'a contacté pour lui demander des explications, le faux ingénieur a prétendu qu'il suivait les étapes de déblocage de son routeur suite à un problème de connexion.
Attends, le faux ingénieur a reçu un Mac chez lui en Corée du Nord et l'entreprise qui lui a envoyé ne s'est douté de rien en écrivant l'adresse. Ça paraît complètement invraisemblable.
Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le faux ingénieur qui s'est avéré être un ressortissant nord-coréen a utilisé une adresse basée aux États-Unis.
Je ne comprends plus rien. Où était basé le faux ingénieur?
Il était basé en Corée du Nord, mais il s'est fait livrer son ordinateur dans une ferme d'ordinateurs mule basée aux États-Unis.
Tu veux dire mule, comme avec les personnes qui font passer de la drogue en la prenant sur eux?
Oui, c'est le même principe. Et c'est le terme qu'ils utilisent dans leur article de blog.
Donc, si je résume, un complice nord-coréen reçoit aux États-Unis dans une ferme d'ordinateurs le Mac envoyé par l'entreprise. Il le connecte au réseau et l'employeur voit via une connexion nationale états-unienne. Donc, jusque-là, tout est cohérent pour l'employeur. Ensuite, le complice sur place installe un logiciel de prise en main à distance pour qu'ensuite le faux ingénieur basé en Corée du Nord puisse commettre son forfait à distance.
Je pense que c'est tout à fait ça. Et les alarmes se sont déclenchées exactement au moment d'installer le logiciel de prise en main à distance depuis la Corée du Nord.
Il s'en est fallu de peu. Heureusement que l'entreprise était bien protégée. Une entreprise moins protégée ou sans détecteur de menaces aurait pu se faire avoir. Mais comment l'employeur a-t-il su que son entreprise était victime d'une infiltration de la Corée du Nord?
En fait, l'employeur a eu les bons réflexes. Ce qui est rassurant, car c'est une entreprise de formation à la sécurité informatique. Ils ont ensuite contacté des collègues chez Google, puis ont fait appel à la police fédérale, alias le FBI. Le FBI leur a alors confirmé qu'ils avaient affaire à un faux ingénieur de Corée du Nord.
Donc, en résumé, ce mode opératoire permet non seulement à la Corée du Nord d'accéder à des données sensibles de l'entreprise attaquée.
Ça pourra toujours servir s'ils veulent monter une arnaque plus tard.
Mais en outre, ça leur permet aussi de faire entrer des dollars dans leur pays.
Tu as raison de le préciser, car la Corée du Nord est très isolée sur le plan mondial. Par conséquent, elle ne peut pas commercer. Mais avec cet argent frais gagné malhonnêtement, la Corée du Nord peut alors s'approvisionner en matériel étranger qu'elle paye avec les dollars.
Attends, tu veux dire que grâce à ces infiltrations dans les entreprises américaines de la tech, la Corée du Nord parvient à financer son programme militaire?
Oui. Le cyber finance donc le militaire.
Ouah, bon, ça c'était en juillet. Ensuite, il y a d'autres cas.
Oui, un autre cas a été découvert cet automne. Mais avant d'en parler, je voudrais préciser pour nos auditeurs francophones que je laisserai sur notre site la version francisée des conseils que livre l'entreprise victime pour ne pas être infiltrée.
Oui, car rappelons que cette entreprise est spécialisée dans la formation à la sécurité informatique et qu'elle a contenu l'attaque en moins d'une demi-heure. Tu peux peut-être d'ores et déjà nous livrer quelques-uns de ces précieux conseils.
Ok, pourquoi pas. Alors, il recommande tout d'abord de renforcer les vérifications des candidats par des entretiens physiques ou en visio. Et en cas de doute, pendant une visio, le recruteur peut demander par exemple...
Je vois que vous êtes sur Rennes. Où aimez-vous aller savourer une crêpe et laquelle choisissez-vous?
Ah oui, un ou une candidate qui vit sur Rennes, pour de vrai, n'aura pas de problème pour répondre à cette question. Par contre, un imposteur aura plus de mal à monter une réponse convaincante.
Un autre conseil consiste à contacter par téléphone les anciens employeurs mentionnés dans le CV, de ne pas se contenter des adresses électroniques fournies par les candidats. Ensuite, il recommande de surveiller les accès systèmes pour démasquer les activités suspectes. Et enfin, il recommande de sensibiliser les employés aux techniques de manipulation sociale et d'encourager les employés à signaler des comportements inhabituels. Nos auditeurs pourront retrouver les détails dans les notes de l'épisode.
Je sens bien le nouveau métier qui va se créer maintenant. Détecteur de faux employés nord-coréens.
L'avenir nous dira si tu as raison.
Juste une précision, tu crois que c'est à cause de ces attaques nord-coréennes que de plus en plus d'entreprises veulent limiter le recours au télétravail? Je pense à Ubisoft qui a entraîné une levée de boucliers en voulant ramener ses employés dans ses locaux.
Non, je ne pense pas que cette demande de retour au travail en présentiel est due aux tentatives d'infiltration nord-coréenne. Sinon, les employeurs l'auraient dit.
Bon, on a un peu digressé, tu mentionnais une autre infiltration nord-coréenne?
Oui, tout à fait. Mais celle-ci a abouti cette fois. Elle a été révélée en octobre dernier et a touché le monde de la crypto. La chaîne de Blockosmos est concernée. Elle a été noyautée de l'intérieur depuis au moins 2023, voire 2021 par des travailleurs nord-coréens.
Et quel problème ce genre d'infiltration dans les chaînes de blocs pose-t-il?
Eh bien, ces travailleurs nord-coréens infiltrés peuvent ajouter des portes dérobées ou des vulnérabilités dans le code pour rendre la crypto piratable. Et la seule manière ensuite d'enlever ces failles est de conduire un audit complet du code.
Mais quel est le but pour ces Nord-Coréens? Pourquoi ajoutent-ils des failles dans le code des chaînes de blocs?
Ils veulent simplement pouvoir se faire de l'argent. Imagine que tu fasses un paiement avec la crypto Cosmos et qu'ensuite tu connaisses une astuce pour te rembourser ce même montant. Tu achètes alors tout ce que tu veux gratuitement.
Mais je ne comprends pas. L'immutabilité d'une crypto-monnaie ou d'une chaîne de blocs est la pierre angulaire de cette technologie. C'est-à-dire que l'immutabilité empêche toute altération du registre des transactions. Donc tu ne peux pas effacer une transaction.
Tu as raison. C'est le fonctionnement théorique de la chaîne de blocs. Mais ensuite, tu as l'implémentation logicielle qui, si elle amène des failles de sécurité, peut diverger du fonctionnement théorique souhaité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit sourd.
Oh, c'est rien. Je suis tombée de ma chaise. J'étais tellement étonnée.
Ah bon? Alors accroche-toi bien maintenant, car la Corée du Nord s'est spécialisée dans les cryptos. D'ailleurs, le groupe de cyberpirates nord-coréen nommé Lazarus avait déjà détourné près de 600 millions d'euros en 2022.
Avec l'essor des cryptos tels qu'on le voit actuellement, s'il y a des failles un peu partout, ça va leur faire une sacrée cagnotte.
Oui, mais au détriment des investisseurs honnêtes qui ont placé toutes leurs économies dans les cryptos.
Et qui peuvent tout perdre du jour au lendemain si la Corée du Nord le décide.
Comme tu dis, c'est vertigineux.
Eh bien, encore merci Charlie pour ton éclairage précieux sur tous ces sujets. On se retrouve le mois prochain.
Avec plaisir, ma chère Léa. Mais le mois prochain, ce sera Noël. Donc on se retrouvera plutôt en janvier.
Exact, j'avais oublié Noël. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent deviner quelle voix nous imitons dans nos épisodes. Et gagner des super cadeaux.
Ah oui, comme des comptes nettoyeurs, bénévoles, bye bye crottoir. J'en ai des étoiles plein la tête.
Oui, ça fait rêver. Alors comme c'est un peu difficile ce mois-ci, je donne un indice sur les voix imitées. On est le jour de l'élection américaine. Je répète, on est le jour de l'élection américaine.
Avec ton indice, ce sera plus facile. Et comme toujours, chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager cet épisode avec vos amis pour les sensibiliser aux dangers cachés derrière nos technologies quotidiennes.
Oh, et j'allais oublier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify et YouTube Music. On est Faïsik. Ciao, Charlie.
Salut. À bientôt, Maléa. Et que Dieu bénisse la cybersécurité.